Bienvenue à cette troisième saison des PodCap, le premier podcast d'actualité pédiatrique pour les professionnels de santé que vous propose le laboratoire Gallia en partenariat avec Réalité Pédiatrique. Chaque mois, au travers d'une interview d'une dizaine de minutes, un expert vous livre sans tabou sa lecture scientifique et médicale d'un sujet au cœur de votre pratique.
Bonjour, je reçois aujourd'hui le docteur Joris Ménard, pneumopédiatre dans le service de prise en charge des pathologies du sommeil de l'enfant du CHU de Bordeaux. Nous parlons aujourd'hui d'une pathologie méconnue, le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, SAHOS, chez l'enfant, de son diagnostic et de sa prise en charge. Docteur Joris Ménard, bonjour.
Bonjour.
Alors, docteur Ménard, ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il est davantage connu chez l'adulte. Est-ce qu'on peut, dans un premier lieu, expliquer la physiopathologie de ce SAOS chez l'enfant ?
Alors oui, chez l'enfant et dans le cadre du SAOS de type 1, donc c'est l'étroitesse des voies aériennes supérieures qui va être liée à l'hypertrophie des organes lymphoïdes, que sont les amygdales et les végétations adénoïdiennes, qui sont responsables de l'apnée du sommeil et donc de l'arrêt du flux d'air dans les voies aériennes inférieures.
D'accord, très bien. Et alors, est-ce qu'on peut incriminer le port de la tétine chez les tout-petits ou d'autres facteurs d'hygiène éventuels qui seraient identifiés ?
Alors oui, on peut effectivement avoir un impact chez l'enfant qui garde la tétine un peu trop longtemps parce qu'elle empêche la langue de se positionner au bon endroit, à savoir au palais.
D'accord.
Et limite donc son extension. Le pouce va pouvoir lui aussi être incriminé avec son impact dans le développement du massif facial et sur le positionnement de la langue.
D'accord, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est une possibilité.
C'est ça.
En termes de prévalence, docteur Ménard, quels sont les chiffres chez l'enfant ?
Alors, en fait, il y a un continuum entre les symptômes qui amènent au SAOS classique, qui démarre par les ronflements, et ça va concerner environ 10% des enfants, jusqu'au syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, qui va lui toucher environ 3% des enfants.
D'accord.
Ce sont des chiffres qui sont très probablement sous-diagnostiqués par méconnaissance des professionnels de santé et des parents. À mon sens, le diagnostic du SAOS, c'est un enjeu de santé publique parce que les impacts sur la qualité de vie et le neurodéveloppement des enfants sont vraiment très importants alors que la prise en charge est extrêmement facile et standardisée.
D'accord. Et quand on regarde finalement quelle tranche d'âge est la plus touchée chez les enfants ?
Alors le SAOS de type 1, donc c'est le plus classique entre guillemets, celui qui va toucher les enfants de 2 à 3 ans jusqu'à plutôt 8-10 ans. Et qu'on met en général en opposition avec le SAOS de type 2 qui va toucher les enfants qui sont atteints d'obésité, ou le type 3 qui va concerner les enfants qui ont des syndromes polymalformatifs ou des syndromes génétiques tels que la trisomie 21 par exemple.
D'accord. Docteur Ménard, on va se pencher maintenant sur le diagnostic. Il y a un tableau clinique assez typique chez l'enfant. Quel est ce tableau clinique ? Est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
Alors les symptômes majeurs du SAOS de l'enfant, ça va être les ronflements qui sont très importants, qu'on peut entendre porte fermée, qui sont quotidiens, et depuis plus de 3 mois. Donc c'est des ronflements qui sont chroniques, qu'on met en opposition aux ronflements qui sont liés aux épisodes viraux de l'hiver.
D'accord.
Il y a aussi les apnées qui sont remarquées par les parents avec des reprises inspiratoires bruyantes et parfois une inquiétude parentale très importante qui motive le fait de devoir secouer son enfant pour qu'il respire correctement. Ça, c'est très caractéristique.
D'accord.
Après, on va avoir des symptômes diurnes, donc la journée, avec des troubles du comportement à type d'agitation, de troubles de l'attention, un impact sur la croissance staturopondérale qui peuvent être au premier plan. Et après, en examinant les enfants, on va retrouver assez facilement des grosses amygdales ou une hypertrophie des végétations avec un examen qu'on appelle la nasofibroscopie qui est faite par les ORL ou tout simplement une certaine disharmonie au niveau du visage et du massif facial.
D'accord. Donc là, c'est le tableau complet typique que vous venez nous décrire. Est-ce qu'il y a des symptômes un peu plus insidieux qui doivent alerter, qui doivent mettre sur la voie ?
Alors oui, tout à fait. Il y a des symptômes qui vont être un petit peu plus discrets, comme des cernes un peu marquées, une respiration qui va être buccale, des troubles de l'apprentissage à l'école ou une somnolence diurne qui va être importante. On note aussi parfois le fait d'avoir des parasomnies, donc des cauchemars, le somnambulisme, des terreurs nocturnes assez fréquentes qui doivent se faire poser la question du syndrome d'apnée du sommeil.
D'accord.
Après, je pense quand même que l'hypertrophie des amygdales, qui est un diagnostic vraiment facile, il suffit de faire ouvrir la bouche aux enfants, qui est à la portée de tous les professionnels de santé, ça doit amener à se poser la question d'un trouble du sommeil et d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil.
Donc, quand vous évoquez la somnolence, les parasomnies fréquentes, etc., faire ouvrir la bouche, assez vite se préoccuper, enfin vérifier les choses, c'est ça ?
Exactement.
Une fois le diagnostic posé, docteur Ménard, donc c'est le médecin traitant ou le pédiatre qui pose le diagnostic, est-ce qu'il y a des examens complémentaires qu'il faut absolument prévoir systématiquement ?
Alors, des examens complémentaires, non, mais une fois que le diagnostic clinique il est posé avec une certitude assez marquée chez un enfant qui a plus de 2 ans, la première étape, ça va être d'adresser le patient à un ORL qui sera lui-même capable de juger de l'indication d'une chirurgie ou des végétations ou des amygdales.
D'accord.
Et on peut dans le même temps adresser les patients à des orthodontistes pour évaluer justement la possibilité d'un appareillage spécifique.
D'accord. Alors, vous parlez d'une prise en charge chirurgicale par les ORL. Quels sont les critères de gravité qui permettent de décider s'il faut une chirurgie ou pas?
Alors, je ne vais pas me permettre de parler à la place de mes collègues ORL, mais en général, la chirurgie, elle est proposée en fonction de, un, la taille des amygdales, évidemment, ou des végétations, mais surtout en fonction du retentissement clinique de l'enfant.
Et docteur Ménard, à quel moment le pédiatre doit-il orienter vers un centre spécialisé? Est-ce que d'ailleurs la prise en charge passe nécessairement par une consultation du sommeil?
Non, et ça c'est une très bonne chose parce que ça retarderait vraiment les prises en charge de ces enfants. L'important, je pense, c'est d'avoir un réseau de professionnels de santé qui connaissent suffisamment les pathologies du sommeil de l'enfant, ce qui va permettre vraiment d'accélérer les choses.
D'accord. Alors justement, si on ne fait rien, quels sont les risques? Est-ce qu'on peut se dire, dans certains cas, on patiente, on attend que ça passe?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que les enfants ils vont grandir et apprendre pendant les différentes phases du sommeil. Mm-hmm. On va donc imaginer qu'un sommeil fragmenté par 10, 15, 30 micro-éveils par heure va avoir un impact énorme sur les apprentissages et le développement. Les conséquences, ça va être aussi une mauvaise prise pondérale et staturale, donc le poids et la taille chez le tout-petit, mais aussi un surpoids et une obésité chez le plus grand, ce qui va s'accompagner derrière de pathologies métaboliques et cardiovasculaires, et aussi une plus grande incidence des troubles de l'humeur. Mmh. Après, on peut attendre dans certains cas quand les symptômes ne sont pas trop importants, parce que l'hypertrophie des organes lymphoïdes va diminuer avec l'âge, car D'accord. elle est liée à la maturation immunologique. Donc dans certains cas, on peut attendre que ça passe, quand les symptômes et l'examen clinique ne sont pas très francs et la sanction chirurgicale qui pourrait s'avérer un peu trop sévère ou risquée.
D'accord. Et comment évolue le sommeil et le développement chez un enfant qui a été traité pour SAOS?
Ben justement, ils évoluent très bien. C'est toute la raison pour laquelle ce syndrome doit être connu et diagnostiqué par tous. Il y a un consensus français de la prise en charge qui est sorti en 2023 pour aider à la prise en charge de ce syndrome. Et on parle beaucoup de la qualité de vie de l'enfant, mais il faut aussi souligner, je pense, l'impact sur la qualité de vie et du sommeil des parents dont les enfants sont correctement pris en charge.
Et enfin, docteur Ménard, pour terminer, s'il fallait retenir 3 messages clés pour les pédiatres et les médecins généralistes qui nous écoutent sur cette prise en charge du SAOS?
Eh bien déjà, merci de m'avoir permis de pouvoir en parler avec vous. Je pense que le premier message, c'est d'y penser devant certains symptômes que chaque praticien peut diagnostiquer à chaque consultation et en quelques secondes, à savoir l'hypertrophie des amygdales et ce qu'on appelle les troubles de déficit attentionnel et de l'hyperactivité. Le deuxième message important, et encore une fois pour faire accélérer les choses dans la prise en charge de ces troubles du sommeil, c'est qu'il n'y a pas besoin d'enregistrement du sommeil pour faire le diagnostic ou d'être spécialisé dans le sommeil pour faire ce diagnostic. Et enfin, le troisième message, pour tous ceux qui nous auront écoutés, c'est évidemment d'en parler le plus possible, d'en faire la pub, entre guillemets, autour de vous et autour de tout le monde, pour qu'on puisse avoir une connaissance de ce syndrome et qu'il puisse être pris en charge le plus précocement possible.
Très bien. Eh bien merci beaucoup, docteur Joris Ménard, pour ces explications limpides sur le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, son diagnostic et sa prise en charge. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro des Podcaps. Au revoir, à bientôt.
Ce podcast vous a été utile? Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Le laboratoire Galia et Réalité Pédiatrique vous remercie de votre écoute.